chantait de bon matin quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette.
Bonjour et bienvenue sur Radio G à votre émission Il est l'heure Monseigneur. Alors aujourd'hui on est avec une petite équipe restreinte, mais j'ai envie de dire les meilleurs sont là, donc bonjour Josiane.
Bonjour.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour.
Et bonjour Marc.
Bonjour Raphaël.
Voilà, alors cette semaine comme d'habitude on a un personnage mystère à trouver. C'est un personnage mystère qui est décédé, on va le dire. Le premier indice c'est que c'était un académicien, pardon. On écoute tout de suite une petite chanson en indice, une chanson de Sylvie Vartan, La plus belle pour aller danser. À tout de suite.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras, diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi, par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés ont décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, un soir je serai la plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri de bonheur. Oh, si tu veux ce soir cueillir le printemps de mes jours et l'amour en mon cœur pour connaître la joie nouvelle du premier baiser. Je sais qu'au sein des amours éternels, il faut que je sois la plus belle. Aller danser.
On n'arrive pas à les compter.
Donc c'était ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Jacqueline et Josiane, c'est votre cas ce soir, vous bougez un petit peu, vous faites comment?
Oui, je cours après mon chat une bonne partie de la soirée. C'est vraiment très sportif.
C'est un chat danseur.
Et moi, je cours après mon toutou quand il ne veut pas se laisser faire.
Bon, ben voilà. Mais il faut s'apprêter pour tout ça. Hein.
Oui, puis bon. Alors, plutôt que d'être serré dans les bras de quelqu'un d'autre, c'est toi qui sers ton chat quand tu as fini par l'attraper.
Chacun trouve l'affection qu'il peut, là où il peut.
Exactement.
Et c'est important, l'affection. Hein.
Et oui, et les animaux, mon Dieu, qui nous en donnent aussi.
Ah oui. Hein.
Absolument. Marc, tu voulais nous dire un petit mot sur le bénévolat, puisque c'est un peu ton créneau. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous présenter aujourd'hui là-dessus?
Bah, je voudrais parler de ce que nous appelons, nous, dans notre jargon, hein, des six piliers du bénévolat. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir recruter et fidéliser des bénévoles? Je pense que c'est d'actualité parce que là, j'ai une note là, dans un journal. Qui faisait référence à un sondage IFOP récent, très récent, donc du début mars, et qui met en évidence que effectivement il y a quand même une hémorragie de bénévoles. Et là j'ai des chiffres qui ont été tirés de ce sondage qui disent que parmi ceux qui donnent chaque semaine aux associations, qui vont chaque semaine aux associations, comme nous. Hein,
oui, qui donnent leur temps. Bien,
qui donnent leur temps. Il y en avait 44% en 2019 et on est tombé à 40% en 2023. Et en ce qui concerne les gens de plus de 65 ans, parce que c'est cette tranche-là finalement qui, après le Covid, est touchée, et qui est à la fois qui donne le plus et qui est le plus touché. Oui. En 2010, hein, ça remonte un peu, c'est plus de 65 ans, il y en avait 40% dans le bénévolat qui s'engageait. Mmh. Et en 2019, on était tombé à 31%, donc là on est juste avant la crise sanitaire, et on est maintenant à 25%.
Aïe, aïe, aïe.
Donc là,
c'est
ce qui explique qu'actuellement, effectivement, on a cette difficulté. Alors, nous, France Bénévolat, on propose justement un parcours aux associations pour les aider à la fois à recruter des bénévoles et aussi à fidéliser leurs bénévoles. Donc ça peut être sous forme d'une animation qu'on peut proposer au sein d'une association ou de plusieurs associations. Je rappelle quand même les trois éléments de chaque thématique, c'est-à-dire en ce qui concerne le recrutement, trois idées clés pour bien recruter, c'est d'abord de bien préparer les missions, c'est-à-dire que avant de proposer l'arrivée de bénévoles, eh bien il faut bien identifier ce pourquoi on recherche des bénévoles, et ça peut se faire sous la forme de fiches de mission. Qui permettent d'attirer les bons candidats, parce qu'on peut attirer des candidats mais qui ne correspondent pas à votre association. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien accueillir, parce qu'une chose est de les attirer, mais une fois qu'ils franchissent la porte de l'association, là il faut d'abord créer une relation, une qualité de relationnel avec ces personnes-là, bien les accueillir, et notamment bien leur parler du projet de l'association, parce que finalement ce qui va entre guillemets matcher, comme on dit maintenant, c'est la rencontre entre le projet de l'association et mon projet à moi en tant que candidat bénévole, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à mon projet de vie en tant que bénévole. Donc c'est ça qui est important. Donc bien accueillir, bien sûr, il y a, lorsqu'on fait une animation, on développe tout ça. Et puis le troisième point, c'est bien intégrer la personne. Une fois qu'elle est, bon voilà, elle nous a rejoint, elle est accueillie, eh bien il faut que cette personne-là, on lui donne le maximum de moyens de bien s'intégrer au groupe, parce que ce qui se passe, c'est souvent on rentre dans un groupe, et le groupe qui a ses petites habitudes, qui a ses routines, voit la personne arriver. Ah, ça peut
s'ouvrir à quelqu'un de l'extérieur.
Et c'est pas toujours évident. Je l'ai constaté moi-même dans mon propre association. Donc c'est quelque chose de délicat. Et puis ça peut aider aussi à s'engager dans l'action, c'est-à-dire faire en sorte que voilà, la personne sache exactement ce qu'on attend d'elle. Donc ça, c'est ce qui concerne la première partie. Donc trouver des bénévoles. Quant à les fidéliser, ben ça c'est la deuxième étape qui permet justement de les garder et de leur donner envie, d'avoir envie encore dans la durée. Eh bien, il y a trois items qui sont retenus, trois idées clés, trois actions clés. Bien animé, donc bien animé, c'est-à-dire faut que la personne, quand on dit animer, c'est donner du souffle, donner de l'esprit, donner de l'envie. Donc ça peut passer par donner sa place à chacun. C'est-à-dire que voilà, on a quelqu'un qui arrive, et bien faut qu'elle trouve sa place, et que les autres lui donnent sa place. Donc c'est quelque chose qui se travaille aussi. Et puis la dimension qui est importante et qui est recherchée par le bénévole, c'est la dimension collective, c'est-à-dire fonctionner en collectif. D'ailleurs, c'est pour beaucoup de bénévoles ce qui fait qu'ils sont motivés à venir à l'association, c'est qu'ils rencontrent d'autres personnes qui puissent agir, bien sûr, mais parler, échanger, etc. Donc là, cette idée aussi de faire ensemble, on est plus efficace quand on est dans une dimension collective. Le deuxième point de cette fidélisation, c'est bien se former, enfin bien former les personnes plutôt. Bon, ben ça tombe sous le sens, hein. C'est-à-dire que il y a des actions qui sont pas toujours évidentes. Il y a des fois des apprentissages, des compétences à acquérir. Donc il faut que l'association puisse le permettre pour que le bénévole soit à l'aise dans sa tâche. Hein. Et puis ça permet aussi une bonne cohésion de groupe. Hein. C'est toujours, on revient à cette idée du collectif. Voilà, si chacun est, si la personne a reçu les éléments de compétence, c'est un facteur d'intégration au groupe et un facteur d'efficacité. Et enfin, dernière chose, pour fidéliser les personnes, c'est bien les reconnaître, reconnaître les personnes, sachant que le principe du bénévolat, c'est que évidemment on ne reçoit pas d'argent, donc on le fait, on donne son temps, on donne de son temps, donc gratuitement. Mais il n'empêche que on a tous besoin de reconnaissance, qui plus est lorsqu'il n'y a pas cette reconnaissance financière. Et là, c'est une reconnaissance symbolique qui peut se faire par d'abord le merci déjà, qui n'est pas d'ailleurs assez utilisé, dire merci aux gens. Quand ils ont fait quelque chose de bien, et puis reconnaître aussi leur utilité, la réussite. Quand quelque chose est réussi, mais il faut pouvoir le reconnaître et valoriser les compétences. Voilà. Donc alors ça se fait sous différentes formes. On peut mettre une médaille, bien sûr, mais aussi ça peut être impôt, ça peut être enfin une reconnaissance sous différentes formes. Donc voilà les six points, ce qu'on appelle les piliers du bénévolat. Évidemment, ces piliers-là, ben, c'est ce qui permet de faire tenir l'édifice des associations. Et les associations ne peuvent pas tenir sans leurs bénévoles.
Alors après, moi, tu me fais réagir parce que je réagis en particulier sur la mise à disposition de moyens. Et c'est vrai que notre monde associatif en manque cruellement de moyens, que ce soit des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers. C'est pas facile de faire mieux avec moins. Ça l'a été un temps. Aujourd'hui, tu l'as dit, hein, les moyens humains sont un peu en déclin. Oui. Donc, il faut toujours essayer de compenser pour assurer une qualité de service équivalente à minima. Mais on est tous avec des équations pas faciles à écrire et à résoudre.
Pas épuiser justement les bénévoles qui sont là en leur demandant deux fois plus de travail.
C'est une réalité. Effectivement, il y a souvent des tâches qui se reportent et qui viennent se concentrer sur d'autres bénévoles. Et ça a sa limite aussi, hein, parce que on fatigue tous à la fin. Hein.
Oui. Et c'est pour ça que moi, je tiens beaucoup ce langage auprès des associations, de dire il faut développer chez vous une culture du bénévolat. Enfin, une culture, pardon, du bénévolat, mais surtout une culture du recrutement. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on va faire des efforts d'aller vers le recrutement lorsqu'on sent qu'il n'y a plus de bénévoles. Hein. C'est un peu comme l'histoire des médecins. Maintenant, il n'y a plus de médecins.
Parce que, voilà.
Donc, il faut absolument intégrer dans les actions les stratégies des associations, cette idée que qu'est-ce qu'on fait pour le recrutement. Et je pense que nous-mêmes, nous l'avons appliqué à France Bénévolat, on est une petite équipe, on voyait aussi les personnes quitter pour des raisons diverses, et notamment l'âge aussi. On a mis ça à l'ordre du jour de tous nos comités de pilotage, ça fait partie des éléments clés de notre action. Et ben, petit à petit, on arrive à recruter. Alors, ça se fait doucement, mais en tout cas, il y a un petit mouvement. Mais il faut essayer que les associations soient proactives, qu'elles aillent en direction
Il
faut anticiper. Il faut anticiper. Voilà le mot. C'est tout à fait juste. Anticiper et prendre les moyens, éventuellement se faire aider. Nous, France Bénévolat, on peut aider les associations avec nos moyens, nos ressources.
Limitées.
Mais en tout cas, on a cette préoccupation.
On peut résumer pour les chroniqueurs qui sont autour de la table, il n'y a pas de numerus clausus, ni à France Bénévolat, ni à France Alzheimer 49, hein, c'est bien ça?
Tout à fait, tout à fait.
Devant l'immensité de la tâche qui nous attend les uns et les autres, effectivement, on n'est jamais assez nombreux, il faut le rappeler. Et puis après, ne serait-ce que de donner 3 heures par mois, ça peut être suffisant pour accompagner des actions. Et c'est toujours le bienvenu. Donc, si vous êtes, vous, en questionnement sur comment vous rendre utile dans le monde associatif, n'hésitez pas, venez vers nous. France Bénévolat vous guidera en fonction de vos affinités, en fonction de vos qualités, de vos compétences. Et puis, il y a forcément une mission pour vous.
Alors, sûrement. Voilà. Les missions ne manquent pas.
Bon. On va faire une petite pause musicale. Après La plus belle pour aller danser, je vous propose d'écouter La bête est revenue de Pierre Perret. À tout de suite.
Un matin, cette bête s'est réveillée au milieu de pantins qu'elle a tous émerveillés en proclamant partout haut et fort: nous mettrons l'étranger dehors. Puis cette ogresse aguicheuse fit des clones imitatifs, leurs tirades insidieuses convainquirent les naïfs qu'en suivant leurs dictats xénophobes, on chasserait tous les microbes. Attends.
attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. D'où cette bête a surgi, le ventre est encore fécond. Bertolt Brecht nous l'a dit, il connaissait la chanson. Celle-là même qu'Hitler a tant aimé, c'est la valse des croix gammées. Car pour gagner quelques voix des nostalgiques de Pétain, c'est les juifs encore une fois que ces dangereux ariens grandiront comme un épouvantail dans tout leur sinistre éventail. Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur qui forge une nouvelle race d'oppresseurs. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. N'écoutez plus, braves gens, ce fléau du genre humain, l'aboiement écœurant de cette bête à chagrin, instillant par ses chants de sirène la xénophobie et la haine. Laissons le soin aux lessives de laver plus blanc que blanc les couleurs enjolives, l'univers si différent. Refusons d'entrer dans cette ronde qui promet le meilleur des mondes. Attention, mon ami, je l'ai vu. Méfie-toi, la bête est revenue. C'est une hydre au discours enjôleur dont les 100 000 bouches crache le malheur. Il y a nos libertés sous sa botte. Ami, ne lui ouvre pas ta porte. Car vois-tu, petit, je l'ai vu. La bête est revenue.
Donc c'était La Bête est revenue par Pierre Perret. Alors pour rappel, notre personnage mystère n'a pas fait la guerre parce qu'il avait été dispensé, mais néanmoins il a pris part à l'organisation parce qu'il a voulu se rendre utile. Il a été ambulancier pendant la guerre, la Première Guerre mondiale.
Il n'a pas fait partie de la résistance.
Je ne saurais te dire. Là pour le coup, je ne suis pas assez documenté. Bon, on a entendu La plus belle pour aller danser, on a entendu La bête est revenue. Ça vous évoque quoi les uns et les autres? La belle, Jacqueline.
La belle et le clochard, par exemple.
Ah, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Et alors, Marc?
Ça me fait penser à un film, peut-être.
Ah oui, ah, oui, voilà.
Aussi, bien sûr.
Un beau film.
On est tous en train de faire semblant de ne pas savoir, mais.
En noir et blanc.
Ah, nous parlions donc de La Belle et la Bête, film qui date de 1956, si je ne dis pas de bêtises, et qui effectivement est un chef-d'œuvre du cinéma. Jacqueline, toi, tu en pensais le plus grand bien de La Belle et la Bête.
Ah, La Belle et la Bête, pour moi, c'est un film totalement mythique. D'abord parce que Jean Marais était beau comme un dieu. Et puis, les décors et la mise en scène, pour l'époque, c'était absolument somptueux. C'était d'un romantisme extraordinaire. C'était...
Alors, j'ai revu des extraits hier soir, moi, mais Jean Marais, il était assez velu hein, dans le film.
Ah oui, mais après, à la fin, il se dévoile.
Oui, justement, quand j'ai appris qu'il était un petit peu de l'autre côté du truc, je me suis dit, oh, quel gâchis.
Mais voilà.
Ah ben voilà, donc effectivement, notre personnage mystère n'est pas Jean Marais, mais une relation très proche de Jean Marais, et plus proche on ne peut pas, puisqu'ils ont eu des relations intimes.
Alors ils ont adopté, parce que tu disais qu'ils avaient eu un enfant ensemble.
Non, Non, là, j'ai inventé pour le coup. Mais non, effectivement, c'était un personnage voilà qui a pris part à la création de La Belle et la Bête. Et c'est vrai que c'est un monument c'est un français. On le disait, effectivement, il a touché à tout, puisque tout le monde est informé autour de la table. Il a touché à la poésie, il a touché au cinéma, il a touché à la peinture.
À la musique,
à la céramique. Enfin, un homme très, très polyvalent. Je ne sais pas quand est-ce qu'il se reposait, cet homme.
Et quel talent.
Ouais. Et quel talent, comme tu dis.
On a ça.
On va écouter tout de suite Jean-Jacques, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui nous a laissé un petit enregistrement pour parler avec l'UFC Que Choisir de la vitamine C. On en a encore besoin cette saison, là où les jours sont encore un petit peu courts, mais on est un peu fatigué après l'hiver, donc on l'écoute et on réagit après. À tout de suite.
Bonjour à vous. Ceci est une chronique UFC Que Choisir sur la santé. Les bienfaits de la vitamine C. La vitamine C a un pouvoir antioxydant considérable. C'est un nutriment essentiel pour l'équilibre, les défenses immunitaires, la circulation sanguine ou encore les périodes de fatigue. La vitamine C est importante en hiver pour lutter contre le rhume, mais elle protège aussi les vaisseaux sanguins et aide l'organisme à se défendre contre toutes sortes d'infections. On a longtemps penser que de fortes doses quotidiennes pouvaient être bénéfiques ou énergisantes. Mais cela n'a jamais été scientifiquement démontré. Il faut en absorber chaque jour, car le corps ne la synthétise pas et ne la stocke pas. Une alimentation normalement composée de fruits et légumes frais apporte une dose journalière suffisante de vitamine C. Les aliments les plus riches sont le kiwi, certains choux, Bruxelles et brocoli, la plupart des agrumes, pamplemousse et orange. Mais la vitamine C est très fragile. Elle se dégrade au contact de l'air, de l'eau et de la chaleur. C'est encore plus vrai si la peau des fruits et légumes est abîmée, même légèrement. Le lavage de ces aliments modifie également la teneur en vitamine C. Il ne faut pas le prolonger inutilement. La cuisson vapeur la préserve davantage. L'idéal reste de manger les fruits et légumes crus et le plus frais possible. Boire tout de suite un jus pressé, ne pas prolonger la conservation des légumes, même au frigo.
Merci Jean-Jacques.
Il y avait même un gérontologue de l'hôpital qui disait que la vitamine C pour les personnes Alzheimer était très favorable.
Bon, je pense que ça peut faire que du bien. Après, c'est vrai qu'il faut doser, hein, c'est comme tout. Et après, ne pas tomber dans les travers du marketing et de l'industrie. La vitamine C en fruits et légumes, je pense qu'on en connaît tous, hein, l'orange, le pomelos, le kiwi, lesquels autres? Voilà, moi c'est mes principales bases.
Oui, moi aussi.
Oui. Après, de prendre une pastille à faire fondre, je ne sais pas si c'est aussi avantageux. Je m'abstiendrai de tout commentaire.
Pas une pastille à faire fondre, mais une petite dosette fournie à la pharmacie, une par mois. Je connais des docteurs qui recommandent ça.
En vitamine C?
Oui.
D'accord.
Mais moi je pense que le... Alors c'est important les vitamines, notamment la vitamine C. C'est une rubrique intéressante parce que finalement ces vitamines, il y a la vitamine D, il y en a d'autres vitamines qui sont en fait des éléments fondamentaux pour la santé. Alors par rapport à la vitamine C, bon c'est bien les kiwis, les choux, les agrumes. Maintenant, moi je pense que ça me fait réfléchir à deux choses. Notamment les enfants, c'est-à-dire habituer les enfants à manger des fruits, c'est pas toujours évident. Ouais, hein. Même des adultes, il y a des adultes qui...
T'as le jus d'orange le matin qui
effectivement passe un petit peu... Oui, il y a le jus d'orange qui peut fonctionner, oui. Peu... Oui, le jus d'orange, oui, c'est vrai. Mais sinon, c'est vrai, il y a même des adultes qui les fruits qui sont pas trop... Les choux, les légumes...
Bah, tous les légumes verts, généralement, c'est pas toujours évident.
C'est pas évident.
Bon, après, dans notre mode de vie occidental, on est moins sujet au scorbut quand même.
Ah oui, on n'est plus les marins du Moyen Âge là.
Donc la vitamine C, oui, on en a toujours besoin. Après, c'est vrai qu'on a une alimentation suffisamment variée et riche pour ne pas toujours compléter. Mais c'est là où je me dis que je me méfie moi du marketing et, oui, et de l'industrie parfois, oui, qui nous assène des messages pas toujours très sains. Voilà.
Enfin, puis prendre des fruits et légumes plutôt bio, parce que enfin plutôt indemne de pesticides,
oui,
parce
c'est
que.
Ça. T'avales de la vitamine C, mais tu sais pas ce que t'as mal à côté.
Il y a d'autres produits à l'intérieur. Non, mais c'est vrai que ça fait réfléchir parce que ils nous serinent avec les 6 fruits et légumes par jour.
Oui, oui.
Mais faut quand même. Oui, moi, personnellement, par rapport à mon métier d'avant, qui était proche de l'agriculture, je sais comment les
t'as des réserves.
Les produits sont faits. Il y a des fois, enfin voilà, ceux qui peuvent se rapprocher de produits plus. Le plus exempt possible de pesticides, c'est quand même une bonne chose.
C'est mieux, oui, c'est mieux. Certain.
Je vous propose de faire une nouvelle petite pause musicale. Une chanteuse qu'on n'a pas écoutée depuis longtemps, dont Il est l'heure, Monseigneur.
Toujours en rapport avec...
Oui, alors là, en lien avec notre invité mystère, puisqu'il s'agit d'Edith Piaf. Et je précise après pourquoi il s'était en lien à plusieurs égards. On va écouter « À quoi ça sert l'amour ?» À tout de suite.
À quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer?
L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça qui vient, on ne sait d'où, et vous prend tout à coup.
Que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer, à quoi ça sert d'aimer?
L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux.
Pourtant, on dit souvent, l'amour c'est décevant, il y en a un sur deux, qui n'est jamais heureux.
Mais on l'a perdu, l'amour qu'on a connu vous laisse un goût de miel. L'amour c'est éternel.
Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin.
Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie.
Sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien.
Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi, t'es le dernier, mais toi, t'es le premier, avant toi il n'y avait rien, avec toi je suis bien.
Donc c'était la môme, autrement dit Edith Piaf avec « Ça sert à quoi l'amour ?». Alors pourquoi c'est un indice pour découvrir notre personnage mystère? Edith Piaf est décédée le 10 octobre 1963, la veille du décès de notre personnage mystère. Donc je ne sais pas si ça vous met sur la piste. Voilà, c'était deux monuments à 24 heures d'intervalle. Je pense que je n'ai pas connu la France de cette époque-là, mais vous avez dû être marqués les uns et les autres par
ah
ça.
Oui. Alors, complètement. Oui, j'avais 20 ans.
En ce temps-là, j'avais 20 ans.
Eh oui.
Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Hein.
Ah, mon pauvre vieux, à qui le dis-tu?
Bon, on peut peut-être dire à nos auditeurs de qui il s'agit sur le personnage mystère, et puis peut-être vous pouvez nous en dire ce que vous en avez retenu, vous, de cet homme si talentueux et devenu académicien. Allez.
Alors, qui est-ce qu'il révèle?
Bah voilà.
Josiane.
Allez, Josiane.
Alors, voyons. C'est qui déjà? Jean Cocteau.
Et oui, Jean Cocteau, décédé le 11 octobre 1963, qui a été, on va dire, intellectuel, voilà.
Mais artiste dans tous les domaines.
Intellectuel et militant, j'ai envie de préciser, oui. Parce que il se battait pour de nombreuses causes. Et moi, quand j'ai lu qu'il était devenu ambulancier, ne pouvant être engagé sur le front, ça m'a paru être un geste plus que symbolique.
Complètement, hein. Oui. Les taxis de la Marne.
Qu'est-ce que vous en avez retenu justement de Jean Cocteau? Hormis La Belle et la Bête.
Ben moi, la peinture, la sculpture, les œuvres qu'il a fait après m'intéressaient beaucoup. Il y avait une créativité. On sortait enfin des petites formes classiques, les trucs avec les mains.
Ah oui,
c'était vraiment extraordinaire.
Précisément, de ce que j'ai relu pour préparer l'émission, je n'ai pas su dire si c'était lui qui était avant-gardiste ou alors s'il était dans la lignée de Picasso, par exemple. Et il y avait une convergence de tendance à l'époque.
Il était avant.
Il a dû en inspirer plus d'un.
Oui, complètement. Oui. Et puis, il était avec un cercle d'amis de tous les bords, que ce soit peinture, littérature, musique, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Georges Auric.
Il était dans un vivier, en quelque sorte.
Ah, il était, mais vraiment, c'était
toi qui nous disais...
porte ouverte sur le plan artistique, oui. Dans tous les domaines.
C'était toi qui nous disais qu'il avait une relation particulière avec Colette.
Oui. Donc, ça veut dire qu'il s'intéressait énormément à la littérature.
À tout.
Il y a une archive de l'INA que j'ai vue récemment où il est en dialogue avec Colette. D'ailleurs, il lui donne un surnom comme étant le.
Coco.
Un petit mot doux.
Comme étant, alors c'était la plume d'encre ou enfin quelque chose comme ça. D'accord. Qui fait référence à sa capacité d'écriture.
D'accord, à son écriture.
Oui.
Bon, et malgré son talent, alors ça c'est pas un exemple pour notre jeunesse, mais malgré son talent, il a raté deux fois le baccalauréat.
Oui, comme quoi on arrive à réussir sans avoir le bac. Bon,
les diplômes, ce n'est jamais qu'une présomption de connaissance. Hein.
À l'époque, c'était plus facile. Maintenant, ça devient plus compliqué.
De le rater, oui. Et donc, toi, Jacqueline, tu en retiens quoi de Jean Cocteau ?
Moi, je trouve que c'est un génie total dans tous les domaines, puisqu'il a touché un peu à tout. Il a eu vraiment des relations avec tous les artistes de son époque. Et c'était un visionnaire en même temps, parce qu'il avait une créativité extraordinaire dans tous les domaines, que ce soit la poésie, la littérature, le cinéma, le fantastique. Il a écrit des textes pour des ballets avec ses amis musiciens. Enfin, c'était et puis un sculpteur extraordinaire, donc complètement avant-gardiste par rapport à ça, à l'époque dans laquelle il vivait. Donc pour moi, c'est un génie absolu.
Et c'est lui qui a formé Jean Marais. Hein.
Absolument.
Sans lui, Jean Marais
n'aurait pas eu la carrière qu'il a eue. Ça, c'est sûr.
Et alors, il a été poète. Est-ce que vous avez retenu... Alors, d'abord, est-ce que vous avez appris du Jean Cocteau à l'école
ou,
non,
jamais.
Non, il n'était pas encore rentré dans le programme, mais... C'est vrai qu'il a été très prolifique en termes d'écriture.
Quand on va sur les moteurs de recherche, on trouve un nombre d'œuvres absolument colossales, aussi bien en poésie que en texte de théâtre, en musique de ballet, en roman.
Et alors, à ce que tu dis, j'ajouterais effectivement tous les articles qu'il a pu écrire dans différentes revues. C'est à croire qu'il ne dormait jamais, quoi.
Oui. Mais Raphaël, tu parlais tout à l'heure de son engagement. Il avait un engagement politique.
Par exemple, pour moi, il a beaucoup milité pour le droit des femmes.
Oui. D'accord.
Et c'est vrai que il n'est pas, c'est pas quelqu'un qu'on retient forcément pour ça. Mais c'est ce que j'ai cru lire entre les lignes. Lui, homme-femme, c'était pas le facteur de distinction, quoi.
Non.
Quand il défendait.
Je dois dire aussi que La Belle et la Bête, ça n'est pas 1956, mais 1946.
Oh, ben voilà. En ce temps-là.
Il a fait L'Aigle à deux têtes aussi, Les Parents terribles. Des films absolument mythiques, Orphée.
Et là où il était réalisateur, il était.
Totalement.
Oui.
Ouais.
Bon,
toi qui
un illustre français.
Tu connais beaucoup. Il a écrit des romans.
Oui. Oui, je pense.
Oui, oui, il a écrit des romans, il a écrit des poésies, il a écrit.
Ah, mais il s'est pas arrêté. Hein.
Non, enfin, c'est hallucinant son œuvre.
J'ai envie de dire, malgré tout, c'est quelqu'un qui est assez méconnu parce que. Il a peut-être touché à tout, mais moi, par La Belle et la Bête, de lui, je ne connais pas grand-chose.
Oui, Les Parents Terribles, ça a été aussi un film très, très important à l'époque de sa parution. Hein.
Et qui traitait de quel sujet?
Alors là, tu de me poses une colle parce que je l'ai vu, mais il y a tellement longtemps.
Bon, ça nous confirme que c'est un artiste à redécouvrir, donc. Hein.
Voilà.
Donc, à prendre le temps sur des chaînes qui vont bien, et puis aller à la bibliothèque emprunter les ouvrages, ça peut être pas mal. Je parle de chaînes télé. J'avais un pour ou contre à vous proposer cette semaine. Alors, pour ou contre les chaînes d'information continue. Est-ce que vous avez un avis sur la question? Parce que je trouve que en cette période, on va dire, d'activité sociale intense, voilà, il y a toujours une action qui vient, une information qui vient en chasser une autre, mais parfois les informations continuent. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Ah, je sais pas, c'est le style de la 13.
Alors,
ou des choses comme
BFM
ça.
Télé,
LCI. Même en France Info.
Oui.
Même France Info.
Est-ce que vous regardez ces chaînes d'abord?
Oui, mais à toute petite dose.
Alors pourquoi à toute petite dose?
Parce que l'information est tellement épouvantable actuellement que une seule information suffit pour toute une journée.
Alors, Marc, toi?
Moi, je les regarde. D'autant plus que je suis fan de l'actualité, enfin des actualités politiques. J'adore ça, donc je m'intéresse énormément à ça et à la vie en général. Donc je tiens ça de mon grand-père qui, lui, je me souviens, ça remonte, hein, et qui à l'époque c'était l'époque de la radio et je me souviens, mon grand-père, j'ai des souvenirs, il écoutait régulièrement les actualités, il lisait le journal, donc. Et ça m'a marqué. Et moi, je me suis toujours intéressé. Donc, alors les radios, les émissions continues, enfin d'information continue. Alors évidemment, je suis pas du tout du genre à être resté des heures devant, mais c'est vrai que je reviens de temps en temps, je zappe. Hein, je suis plutôt un zappeur, hein, au niveau de la télévision. Et donc, comme je zappe, voilà, on sait qu'on tombe sur LCI, on va tomber sur de l'information. Voilà, et l'actualité du moment. Alors évidemment, c'est redondant, donc il répète mille fois la même chose,
voilà.
il remonte toujours les mêmes images. D'un côté, c'est abrutissant de regarder tout le temps la même chose.
Enfin, oui. Bon,
Mais il y a peu de temps, je faisais des travaux à la maison et j'ai entendu en boucle sur la radio le même journal toutes les heures. Et c'est vrai qu'à la fin, on fait une indigestion d'informations.
Le truc qui défile en bas de l'écran, au cas où tu aurais raté le premier coup.
Voilà, mais après, là où ça me paraît très, très segmenté comme marché, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça en fond d'écran chez eux. Et ça m'interpelle parce qu'on a l'impression que c'est toujours fait
pour... Je vois pas l'intérêt. Mais est-ce qu'il regarde moins?
Oh, je ne sais pas, mais je me dis que quelqu'un qui voit une manifestation 40 fois par heure à la télévision, à la fin, il croit que ça se passe chez lui, quoi.
Il multiplie les manifestants par autant.
Sur le contenu de ce que pensent les gens, hein, c'est évident. Une telle répétition,
c'est un matraquage.
On dit la pédagogie, c'est la répétition. Mais alors là, je peux vous dire que il y a de la répétition.
C'est un lavage de cerveau.
Je suis parti en déplacement il y a quelques temps et je suis tombé dans un hôtel où il y avait BFM. Et à l'hôtel, dans les écrans de l'accueil,
oui,
et en permanence, il y avait l'information sur Pierre Palmade.
Ah bah oui, le pauvre.
Comme si effectivement c'était l'information majeure de l'humanité aujourd'hui. Ça m'a paru un petit peu inconvenant et finalement moi j'appelle ça des vautours. Hein, ces journalistes
qui se gargarisent de l'information à répéter en continu. Donc personnellement, je trouve que ça n'a pas d'intérêt.
Non, mais là tu mets le doigt sur un autre aspect du journaliste, c'est-à-dire que le journaliste, il y a une anecdote qui se raconte dans que j'ai entendu au niveau des écoles de formation au journalisme, qui disent que un chien qui mord un homme, c'est pas une information. Un homme qui mord un chien,
alors,
c'est une information.
Ça, ça fait la une.
D'accord. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que ils se nourrissent de ça, c'est-à-dire que voilà. Et
puis, oui, le sensationnel.
Vu son histoire, vu. Et là, évidemment, ils vont exploiter ça jusqu'au bout, parce que derrière, c'est l'Audimat, c'est l'Audimat qui fait la pub, qui fait gagner la chaîne. Ouais. Donc voilà. Et malheureusement, ils se nourrissent de ça, et ils s'en nourrissent.
C'est plus que le sucre pressé. Il n'y a plus rien.
Et après, ils vont passer à autre chose. Maintenant, c'est fini. On n'en a plus.
Ah oui, non.
Mais par contre, c'est vrai que voilà, c'est... Bon. Et ça, alors après, c'est toute la réflexion sur le monde du journalisme, le business autour du journalisme. Il y a des journaux qui font autrement, qui travaillent plus, ils hiérarchisent l'information, et voilà.
Alors après, comme il semblerait qu'on vend moins de journaux papier maintenant.
Oui, c'est vrai.
C'est pour ça qu'ils nous en.
Mais pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai tendance à toujours vérifier finalement l'intérêt de journalistes. Et c'est vrai que sur ces chaînes, qui sont des chaînes de groupes privés, ils sont effectivement à vouloir servir un capital, leurs actionnaires, et puis également fournir des pages de pub le plus cher possible. Donc, ils sont un peu dans la course au sensationnel.
Dès qu'il y a la pub, je zappe.
Ouais. Mais malgré tout, enfin, je trouve que si aujourd'hui il y a des sociétés de protection ou de biens ou de personnes qui marchent si bien, c'est aussi parce qu'on entretient un climat anxiogène permanent.
Ah, complètement,
c'est sûr,
oui.
C'est sûr. Ouais. Moi, j'ai toujours cette anecdote qui m'a été racontée. C'était pendant des élections, et on distribuait des tracts. Enfin, la personne qui me l'a raconté distribuait des tracts donc dans une petite commune du Maine-et-Loire. Ouais. Et donc, à un moment donné, il frappe à la porte. Enfin, il arrive près du petit jardin là, devant la maison. Et la personne s'avance, une personne à un certain âge, mais bon. Et alors, il commence à lui parler. Et la dame, elle dit bah, la sécurité, comment voulez-vous la sécurité? Et à ce moment-là, la personne qui distribuait le tract dit mais la sécurité, dans votre commune, là, la petite commune rurale, il y a de la sécurité? Oh ben non, il n'y en a pas. Mais dans le poste, avec tout ce qu'on voit dans le poste.
Oui, ça fout la trouille.
Et ben voilà.
Non mais
c'est ça le truc. Non, mais
pour le coup, effectivement, le sentiment d'insécurité est bien
au-delà de ce qu'il y a réellement. Donc, alors c'est vrai qu'il y a, peut-être des endroits, notamment urbains, pas qu'urbains, mais où il y a des problèmes, mais pas d'une manière aussi généraliste qu'on pourrait le penser.
Bah, c'est comme, je vais rien dire, mais enfin, dans des communes où il y a que des Français 100%, ils votent contre l'immigration, alors qu'ils ont peut-être jamais vu un immigré.
Ah non, bien sûr.
Oui. Bon, dans tous les cas, on va recommander de fermer le petit poste La Lucarne avec les images en continu, et puis on va inviter les auditeurs à écouter Radio G, et puis les flashs radio de
très,
RFI.
Très bonne idée.
Écoutez-nous sur 101.5. On fait pas tout, hein, Radio G, mais les informations RFI sont quand même aussi bien dosées, je pense. On va faire une nouvelle pause musicale. Si je vous parle de Lucienne Delisle.
Oh,
ça fait longtemps. Hein.
Ça n'est pas d'aujourd'hui. Hein.
Alors pour Jean Cocteau,
se retrouver en barboteuse.
Pour Jean Cocteau, je vous ai choisi la chanson Les Amants de Saint-Jean.
À
tout de suite.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, au musée d'or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux? Car on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux? Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus.
Donc c'était Lucienne Delisle avec les Mon amant de la Saint-Jean. Comment ne pas perdre la tête, c'est une chanson que n'a pas pu chanter Louis XVI, hein, mais pardon.
Oh l'humour noir.
Là, c'est un argument tranchant. Hein.
Bon, bien sûr, ne pas perdre la tête, mais quand on est amoureux, tout est possible. Hein. Désolé, fallait que je la fasse. Bon, dans tous les cas, Lucienne Delisle, c'est pas tout neuf comme répertoire, hein, mais il y a eu beaucoup de reprises de cette chanson.
C'est vrai.
La dernière en date, c'était Patrick Bruel, mais on était d'accord avec Jacqueline pour dire que ça ne vaut pas l'original.
Non.
Jacqueline, tu avais des informations à nous communiquer aujourd'hui.
Oui. Alors là, tu me prends un tout petit peu de coup.
Je couperai, t'inquiète pas.
Alors, c'est une exposition au château d'Angers qui a lieu jusqu'au 26 mars. C'est dans les salles du logis et ce sont des facsimilés et des meubles ainsi que des costumes qui balayent un siècle de mode aristocratique
et des robes longues,
du temps du roi René. Donc, je trouve que ça peut être intéressant. C'est ouvert tous les jours de 10h à 17h30 et les tarifs, c'est le prix de l'entrée pour le château.
Et jusqu'à quelle date, tu as dit?
Jusqu'au 26 mars.
Ah, vraiment. Alors c'est dommage parce que l'entrée est gratuite le premier dimanche matin de chaque mois.
Ben oui.
Donc c'est trop tard. Mais
c'est foutu.
Oui.
Mais il y a encore donc quelques jours pour aller la voir.
Après, en grattant bien, vous avez peut-être vos tarifs préférentiels. Hein. Faut chercher parfois.
Ah ben les trucs, c'est dans la bonne catégorie. La carte à tout, puis des choses comme ça.
Oui, puis on peut prendre aussi une carte pour une année,
oui,
où vous pouvez visiter 5 musées de la ville d'Angers.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé des musées dans Radio G. Hein.
Ça, c'est vraiment très intéressant.
Ouais. Et effectivement, on avait accueilli le musée des Beaux-Arts, souvenez-vous, pour une visite sensorielle il y a quelques années. On va les ressolliciter. Si vous nous entendez, rappelez-nous pour qu'on fasse un peu la promotion de vos expositions. Oui, la mode vestimentaire, c'est joli ça. Alors, je trouve que la robe va très bien à Marc, moi personnellement.
Hein. Je demande à voir.
Non mais attends, la robe d'avocat peut-être. Non, voilà. C'est ça, voilà. Je me souviens qu'on avait fait une visite au musée des Beaux-Arts et la personne qui accompagnait notre petit groupe nous avait axé sur les tableaux avec les costumes. Alors c'était aussi pour accompagner des personnes un petit peu en difficulté. Donc elle nous faisait trouver des couleurs, des fruits, des choses. Et par rapport aux costumes de l'époque, elle nous avait montré un tas de choses. C'était vraiment extraordinaire.
Parfois il suffit juste d'apprendre à regarder,
oui,
pour découvrir.
Oui, mais il y a un tas de trucs qui t'échappent.
Ah oui.
T'as l'impression de la connaître par cœur. Et puis en fait, tu dis, ah bah oui, tiens, j'avais jamais vu ça. Bah,
au château d'Angers, moi, la tapisserie de l'Apocalypse, j'ai dû la voir une trentaine de fois, je la découvre toujours.
Ah hein. Oui, parce que c'est tellement riche en détails que de toute façon, il faudrait passer...
T'as la même chose avec Jean Lursa.
Oui, le Chant du Monde.
Le Chant du Monde aussi.
Mais il est magnifique. Ouais. Et plus, l'hôtel, l'ancien hôpital est absolument magnifique.
Et pour le coup, moi, devant ces tapisseries-là, je me demande, Netflix, ils n'ont rien inventé, la science-fiction, ils n'ont rien créé. Il y a déjà 500 ans, ils avaient une faculté d'imagination.
C'est absolument fabuleux. Oui. Ouais.
Et quelqu'un m'avait dit, alors ce n'est pas le cas, mais quand on retourne, on regarde l'envers d'une des tapisseries de l'Apocalypse, les couleurs derrière qui n'ont jamais
elles sont
été
beaucoup
exposées
plus fraîches,
à la lumière,
évidemment.
C'est absolument extraordinaire.
Ouais, ça, c'est le privilège des restaurateurs, ça.
Oh là
c'est... Nous pauvres publics, nous n'y avons pas le droit. Non, mais c'est vrai que.
Rien que le château, c'est à revisiter un nombre de fois incalculable.
Alors, on m'avait raconté que pendant la guerre, les Allemands s'étaient servis des tapisseries de l'Apocalypse pour couvrir leurs chevaux, pour pas qu'ils aient froid.
Ah ben impressionnant quand même.
Et non. Heureusement qu'il en
heureusement qu'on les a sauvés. Hein.
Mais habituellement, ils avaient tendance à emmener les œuvres d'art. Mais enfin, là,
ça devait être trop vieux. Là. Oui,
J'ai un petit regret, moi, sur le château d'Angers, c'est qu'il n'est pas meublé.
Ah oui, ça, c'est dommage.
C'est vrai que par rapport à d'autres musées qui sont totalement meublés, je pense à Amboise, je pense au musée du château de Saumur, ça change un peu la donne.
Oui.
Hein,
il faut savoir qu'à la cour, à l'époque, ils transportaient tous leurs meubles et leurs tapisseries.
Y a pas encore...
Comme ils avaient plein de châteaux, ils allaient de château en château.
Il n'y a pas encore les cages de fer au sous-sol, là ?
Je ne sais pas,
les cachots,
justement. Oui. J'avais cru entendre un truc comme ça qui restait...
Oui, parce qu'on voit le Plessis bourré, le château de... Sur la 23, là, la sortie.
Oui, le château de Serran.
Il y a de magnifiques...
Il y a une bibliothèque extraordinaire.
Alors, c'est là qu'a été tourné le film dans les cuisines, en bas.
Le Andampodan
qui chante... Oui,
c'est c'est au Plessis Massé.
Plessis-Massé.
D'accord, je crois que c'était au château de Serran parce que
non, c'est Plessis-Massé.
Ils ont des cuisines absolument extraordinaires.
Bon, tout ça, c'est encore un film à revoir, tiens.
Oui, hein, voilà.
Podan.
Donc, il y avait Jean Marais dedans.
Oui, qui arrivait en hélicoptère. Oui.
Dans le film.
Oui. Avec Catherine Deneuve.
Là, il va falloir que je le revoie, celui-ci.
Voilà.
Hein.
ça avait fait sensation.
Bon, avant de nous quitter pour cette nouvelle émission, avant de vous quitter, je vous propose de nous faire une dernière pause musicale. Depuis quelques semaines, on vous fait découvrir un nouveau morceau, un nouvel artiste. Là, j'ai choisi humblement de vous remettre un morceau que j'aime bien, mais par une interprète que je ne connaissais pas sur ce morceau. Il s'agit de Marie Laforêt avec La Tendresse. On se retrouve tout de suite après. Vous nous racontez vos souvenirs. J'ai l'impression que Josiane a déjà plein de souvenirs sur ce sujet-là.
Des seigneurs et des princesses, y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Pas question. Non, 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 non.
Elle a fait carrière après avec,
en solo.
Avec son mari, Françoise et Dominique.
Alors, donc, c'était Marie Laforêt avec La Tendresse. Ah, ça évoque quelques souvenirs autour de la table. Hein.
Oui, ouais. Elle a une très belle voix. Alors,
dans le micro, c'est mieux. Hein.
Elle a une très belle voix, elle a de très beaux yeux. Elle est vraiment sensationnelle, quoi.
Elle a beaucoup moins de beaux yeux que toi.
Oh. Et encore, si tu les voyais sans lunettes.
Ben, je les vois moins bien.
Non, mais c'est plein de poésie, cette chanson, ouais. En plus.
Bon, après, c'est le répertoire de Bourvil pour moi, mais là, j'ai trouvé l'interprétation très,
mais
très jolie
aussi. J'aime
beaucoup
cette interprétation.
Ben oui, Bourvil qui était capable de chanter aussi bien des chansons amusantes et que des chansons tendres, il était extraordinaire.
Et puis il a fait beaucoup d'opérettes aussi avec Annie Cordy, entre autres.
Non, il était sensationnel, celui-ci.
Et Luis Mariano, oui.
On ne l'a pas encore mis en personnage mystère, Bourvil, mais bon.
Ah oui, il mériterait,
certainement.
À suivre.
Je me souviens toujours d'une petite anecdote que j'avais entendue au dernier film qu'il avait tiré... qu'il est en train de tourner, il est mort.
Il
était en plein tournage et puis tout d'un coup il s'est mis à chanter la tactique des gendarmes et ils l'ont gardé dans le montage.
Ah oui, ils l'ont gardé.
Ah oui, ils l'ont gardé. Je sais plus quel était. Non, il a pas joué dans Le Vieux Fusil.
Ah non, c'est pas. Non. Il a pas joué dans Le Vieux Fusil.
Mais
c'était Philippe Noiret et Romy Schneider.
C'était le tout dernier film qu'il a.
C'est pas Le Mur de l'Atlantique ?
Ah non, non, non.
Non,
non, non, non, non.
Bon, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on révise nos classiques en cinéma. Hein.
Absolument.
Et Ricardo nous manque là pour le coup aujourd'hui.
Ah oui, là il nous manque le spécialiste.
Bon, justement, on va faire un petit coucou à Ricardo et à Jean-Jacques qu'on va retrouver la prochaine fois avec nous, j'espère. C'était la 13e émission de la 4e saison aujourd'hui, donc merci d'avoir passé ce temps-là ensemble. On se retrouve dans une quinzaine de jours pour une nouvelle émission de Il est l'heure, Monseigneur sur 101, Radio G 101.5. Merci Marc.
Merci, avec plaisir.
Merci Jacqueline.
C'était un plaisir.
Et merci Josiane.
À bientôt.
À très vite.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses.
Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle.
G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, 1.7 tout.